Comment fédérer les acteurs et les habitants d'un territoire autour d'un projet commun qui intègre les enjeux de demain ? Elisa Desbrosse, responsable du projet Rencontre Laboratoire de Culture Commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais à Losangoël près de Lens, nous en dit plus sur la réflexion collective menée à la Fabrique théâtrale du 11-19 avec les habitants, les acteurs et les institutions du territoire. Voilà, je suis donc avec Elisa de Culture Commune. Bonjour Elisa.
Bonjour.
Culture Commune organise cette année un certain nombre d'actions et de rencontres entre personnes, entre habitants même, qui impliquent des étudiants, etc. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces rencontres, on peut dire citoyennes aussi?
Exactement. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Culture Commune a eu 30 ans pendant la crise sanitaire. Donc est née l'idée de se dire comment est-ce qu'on va fêter notre anniversaire. Et la volonté, c'est de créer une réflexion collective avec à la fois les acteurs du territoire, les institutions, les habitants, habitantes. Et donc pour ça, on va avoir une série d'ateliers entre décembre et février 2023 qui vont toucher les thèmes de la participation citoyenne, de coopération et de territoire, de médiation et évidemment de la jeunesse. Pour chacun d'entre eux, donc c'est co-organisé avec des acteurs du territoire en particulier. Et ensuite, on aura le 6 et 7 avril, deux jours de rencontres laboratoires qui feront office de restitution en fait, de ces temps. On aura également des tables rondes, un vrai temps d'échange en fait, avec aussi les élus et les politiques qui sont sur ce territoire.
Voilà, donc c'est une évolution du projet de Culture Commune qui était avant plus axé présentation de spectacles et aussi organisation de spectacles.
En fait, c'est vraiment en parallèle. Le comité de pilotage du projet, c'est aussi avec Chantal Lamarre, avec Jean-Paul Corbas, Daniel Boys. Enfin voilà, reprendre aussi l'histoire et les projets qui ont déjà eu lieu il y a 30 ans et de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait pour les 30 ans à venir. Et du coup, en gardant les mêmes valeurs fondamentales et l'esprit que Culture Commune a toujours eu. Et du coup, en se réimpliquant donc à la fois dans une réflexion, mais en lien avec les projets artistiques et culturels qu'on propose.
En même temps, on est en plein dans une mutation de ce territoire, donc l'accompagner est peut-être anticipé.
Exactement, et puis ça a toujours été ça, la vocation de Culture Commune, c'est d'utiliser le développement culturel pour aussi participer au développement du territoire. Et c'est toujours les enjeux qu'on a aujourd'hui. Et du coup, donc on voit effectivement le territoire et même la société est confronté à diverses crises aujourd'hui. Et du coup, l'idée, c'est de remettre aussi les structures culturelles en question par rapport à l'évolution sociétale qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, c'est de prendre un peu de hauteur en fait, par rapport à ce qu'on va faire au quotidien. Et pour ça, on ne peut pas le faire seul de notre côté. Et du coup, on veut vraiment intégrer les acteurs, les habitants aussi, pour prendre part à cette réflexion et se dire bon, comment on avance ensemble dans cette mutation qu'on connaît tous et tout aujourd'hui.
On parle beaucoup du poids du Louvre-Lens dans ce bassin, on va dire, de l'Artois côté Lens. Il y a aussi Louvre-Lens-Vallée. Comment vous situez par rapport à ça ?
On peut voir une complémentarité, je pense, entre du coup une structure muséale et de marque internationale et Culture Commune qui est historique dans le territoire, comme on peut le voir pendant la fête de la Sainte-Barbe où on a eu la compagnie Carabosse du coup qui a illuminé tout le parc du Louvre-Lens. Et c'était assez beau de voir un extérieur du coup spectaculaire avec du passage des habitants, un musée ouvert où du coup on avait accès libre et facile, et c'était aussi croisement de différents univers artistiques et culturels.
Voilà, et des initiatives souvent qui mettent les habitants au cœur des projets, dans l'action.
Donc, l'idée vraiment que Culture Commune a depuis le début, c'est ne pas faire pour, mais faire avec ou aux côtés d'eux. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de soutenir dans ces rencontres aussi, et puis même dans tous les projets qu'on a, à la fois par les ateliers, et puis la relation qu'on crée au quotidien avec les habitants, avec la Maison des artistes et des citoyens aussi, qui est présente dans la Cité des provinces, où on cherche toujours à avoir un vrai temps de partage, une relation, et pas juste un rapport structure publique.
Merci Elisa.
Et au plaisir de vous retrouver du coup pour les ateliers, en avril le 6 et 7, pour les rencontres laboratoires.
Pour le premier atelier thématique en prélude de ces rencontres, Culture Commune a fait appel à Laurent Petit, psychanalyste urbain. Je vous partage notre échange qui a été l'occasion de revivre l'histoire du bassin minier de l'Artois et de le projeter dans le futur. Laurent Petit, bonjour.
Bonjour.
Je viens d'assister à une présentation, on va dire peut-être un inventaire de cette zone artésienne du bassin minier, mais aussi à une réflexion de fond sur d'où elle vient, peut-être où elle va, avec les différentes structures, les différents réseaux qui donc se sont construits depuis l'histoire des mines achevée maintenant.
Oui, c'est un travail qu'on mène depuis plusieurs mois avec le 99 bis à Oigny et la mission bassin minier pour psychanalyser le bassin minier. Donc à chaque fois, on essaie de dresser l'arbre généalogique du territoire comme si c'était une personne à part entière. Et donc on a des origines géologiques très profondes hein, liées à la Pangée, c'était il y a 350 millions d'années. Qui, quelque part, se déploie à la fois sur le bassin minier, mais jusqu'en Belgique, forcément, mais en Allemagne, jusqu'au Donbass. Ce qui fait que, quelque part, le bassin minier a une famille très élargie, des cousins germains, par exemple, des frères de sang noir, que sont le bassin de Mons et de Charleroi, une sœur industrielle, l'Angleterre, donc des cousins germains, des cousins polonais, et ça va même des cousins très éloignés, comme le bassin de charbon qui se trouve en Australie et qui va accélérer la fin du bassin minier, la fin de l'exploitation dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, parce que le charbon australien va se retrouver plus rentable, transport compris, que le charbon du Nord-Pas-de-Calais.
Alors c'est vrai que cette psychanalyse d'un bassin et de son exploitation minière en l'occurrence, son histoire aussi, elle est aussi liée beaucoup aux hommes qui ont construit cette histoire et qui ont vécu, qui ont travaillé, apporté leur force et peut-être leur intelligence dans le développement.
Oui, bien sûr, ça a été une aventure humaine extraordinaire parce qu'à un moment, il y a eu jusqu'à 200 000 mineurs qui travaillaient en même temps, des mineurs de père en fils, des mineurs aussi qui ont été arrachés à la terre. À l'origine, qui étaient paysans mineurs, puis au bout d'un moment, ils sont peut-être un peu tombés dans le piège des corons, et comme ils avaient un logement, hop, ils sont devenus mineurs à 100%. Et puis il y a eu beaucoup de vagues d'immigration, les Algériens, puis les Polonais, à nouveau les Algériens, les Italiens, les Marocains, principalement, bien sûr. Donc ça a créé une mosaïque de peuples, de destins, avec, un lien fort, évidemment, avec le métier. Et donc, une aventure humaine et industrielle assez incroyable. Donc, c'était pas facile de s'en remettre, finalement.
Donc, on vit un temps où l'ex-bassin minier se restructure avec de nombreux acteurs qui essayent de trouver des idées, des solutions, et peut-être d'amener le public aussi à changer son regard. Pas sur la mine qui n'existe plus, mais sur le passé de la mine.
Oui, alors là, c'est complexe, parce qu'à la fois, il y a une sorte de fierté de la mine, mais il ne faut pas tomber dans la nostalgie et avant, c'était mieux. Donc, il faut assumer ce passé, en être assez fier, mais il faut aussi se projeter vers l'avenir. Ce qui n'est pas si facile, parce qu'avant, tout le monde parlait de la même chose, et tout le monde faisait un peu le même boulot. Alors que là, il faut être plus dans la diversification, il faut inventer des nouvelles façons de travailler, de vivre ensemble. Donc c'est une sorte de laboratoire vivant qui est en train, je pense, de sortir le bassin minier de sa dépression pour, quelque part, arriver prochainement à une phase de plein épanouissement.
Donc il y a des structures qui sont nées et qui amènent au territoire une stratégie. On peut parler peut-être de bassin minier, et puis de l'implantation du Louvre-Lens, et puis de plein de structures qui se sont mises en phase pour développer, et puis peut-être faire rayonner le tourisme en région, et puis l'activité dans certains domaines nouveaux.
Ouais, il y a une phase, de renarcissisation du territoire qui s'est faite beaucoup par la culture. Par exemple, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Louvre-Lens, pour redonner une envergure mondiale au territoire. Et il y a aussi, quelque part, un nouveau projet qui se profile, c'est la transition énergétique. avec l'idée finalement de redonner une dimension verte à un territoire qui était souvent gris ou noirâtre. Et aussi peut-être une autre ambition, c'est de passer du statut de mineur à celui de majeur. Et ça, c'est plutôt un projet mondial aussi, parce que je pense que l'être humain s'est comporté un peu comme un gamin depuis l'époque industrielle, et il faut qu'il se responsabilise pour sauver la planète et rendre sa descendance possible. Donc il y a un basculement mineur et majeur à majeur qui est symboliquement intéressant à pointer ici, à la fois pour ce territoire précisément, mais pour le monde entier.
Alors, je ne sais pas comment fonctionne la psychanalyse, c'est un monde qui m'échappe un peu, mais en l'occurrence, dans votre conférence, on utilise ou on joue avec certains mots ce qu'on ne pourrait pas faire dans d'autres langues, par exemple entre mineur et majeur, mais aussi, par exemple, fougère, avec l'idée des fous qui gèrent. En anglais, ça ne fonctionnerait pas.
Absolument, le travail qu'on fait est lacanien, c'est-à-dire on joue beaucoup avec les mots. Et cette approche marcherait pas en anglais, ou marcherait différemment avec quelqu'un qui maîtriserait bien la langue. Là, je pense que c'est possible. Sauf que je pense qu'il y a des langues qui se prêtent facilement au jeu de mots et pas d'autres. Je sais pas à quel point. Sauf que si, en anglais, ça pourrait fonctionner parce que Shakespeare utilisait énormément les jeux de mots. C'est truffé de jeux de mots qui sont absolument intraduisibles en français.
Ces jeux de mots, justement, comme ils sont intraduisibles, ils correspondent à une culture et peut-être envoyer à l'auditeur, au spectateur, des messages qui vont faire un effet particulier dans son esprit et qui vont le mettre en connexion avec une pensée de la culture locale ou nationale.
C'est ce qu'on espère. Les gens retiennent plus les jeux de mots que, par exemple, une date ou un fait historique, ils vont peut-être, ça les fait méditer. Et je pense que c'est dû au fait que le jeu de mots, il crée une nouvelle connexion dans le cerveau, une connexion tout à fait inattendue. Et ça fait comme un électrochoc, ce qui fait que c'est comme une connexion neuronale en plus, qui, bon, on l'espère tous ici, permet aux spectateurs d'être beaucoup plus intelligents en sortant de la conférence qu'en y rentrant.
Et en même temps, ça peut faire naître une complicité, soit avec l'auteur, soit de manière transversale parmi le public.
Oui, alors c'est pas gagné, parce que là, par exemple, je sentais le public un peu apathique, pas très réactif justement au jeu de mots. C'est une culture aussi qui vient peut-être avec l'âge ou qui est plus si efficiente aujourd'hui que jadis. Je me pose la question de l'impact du jeu de mots sur la jeunesse.
Ouais, après, peut-être qu'on peut se dire que le public, la façon dont il s'exprime ou dont il existe devant la personne qui intervient, peut-être n'a pas les mêmes codes qu'auparavant et qu'il reste plus en retrait, mais pas forcément moins réactif intellectuellement.
Oui, c'est ça. Après, dans le cadre de l'intervention qu'on vient de faire, j'ai pas créé le rituel du spectacle avec une entrée, un décorum, un costume. Je suis parti plus d'un endroit de vie courante, donc j'ai pas sacralisé le spectacle. C'est peut-être ce qui a manqué, mais bon, l'objet c'était surtout de leur transmettre des informations et de les faire réfléchir sur leur travail en le mettant en perspective avec le passé de la région.
En même temps, culture commune, enfin la fabrique de théâtre ici a une pratique théâtrale, enfin une habitude du théâtre et du spectacle. On peut dire que les spectateurs qui étaient dans ce lieu théâtral n'ont pas forcément intégré cette dimension-là en tant que spectateur, en tant que vie par rapport à un spectacle dans lequel ils sont conviés.
Oui, mais c'est pas forcément de leur faute, c'est plutôt la culture commune, c'est plutôt de la mienne. Mais j'étais dans une position vraiment complexe, parce que j'avais participé à leurs échanges, j'avais mangé avec eux juste avant, j'allais pas revenir avec un costume pour faire le show comme peut le faire quelqu'un qui fait du stand-up. À la limite, peut-être qu'il aurait mieux fallu placer cette intervention en tout début de journée, pour qu'ensuite je m'intègre aux échanges une fois que j'ai enlevé mon costume. C'est, de toute façon, à la limite, c'est, comme c'est une fabrique, c'est un terrain d'expérimentation, et on va recadrer les choses pour les prochaines rencontres laboratoires qui vont avoir lieu à partir de janvier.
Voilà, donc peut-être maintenant on peut présenter davantage la structure dans laquelle vous intervenez ou pour laquelle vous intervenez.
Alors, l'ANPU, l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, a été fondée en 2008 suite à, quelque part, à une proposition que j'avais faite dans le cadre d'un congrès où j'avais présenté des travaux en me faisant passer pour un psychanalyste urbain. Et dans l'assistance, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé cette proposition intéressante. Donc, ils nous ont proposé de psychanalyser des territoires comme Béthune, c'était notre premier cas, la ville de Tours, je me souviens aussi du département des Côtes d'Armor. Donc on a eu beaucoup de demandes de psychanalyse, alors qu'on n'avait même pas imaginé une méthodologie. Et au fil des cas d'études, on a psychanalysé une centaine de territoires en 15 ans. On a mis en place une méthodo avec un temps d'enquête sur place où on fait parler des experts, des habitants, et ensuite on mouline toutes les informations pour aboutir à une conférence où on met en évidence l'environnement familial du territoire, on regarde comment il a traversé les traumas, et ça met en évidence des névroses locales ou des points névrotiques qu'on propose de traiter en imaginant toutes sortes de propositions urbaines, économiques ou cathartiques. Et tout ça, on présente ça à la population pour qu'elle s'empare des propositions et qu'elle guérisse ainsi de ses névroses.
Alors, est-ce qu'il faut absolument guérir de ses névroses ou faire avec ?
Personnellement, moi, je suis polynévrosé, j'ai plus tendance à vivre avec. J'ai suivi des traitements où j'ai réussi à les pointer. La thérapeute était découragée, elle m'a juste dit qu'elle n'en pouvait plus, mais elle m'a quand même expliqué que je souffrais de 6 névroses, donc malheureusement, en sortant de chez elle, j'avais oublié les noms des névroses, donc ça n'a pas servi à grand-chose, mais enfin si, ça m'a fait... Elle m'a juste expliqué qu'en tant que psychanalyste urbain, j'arriverais à les soigner, ou du moins à les maîtriser, comme vous le dites, à jouer avec. Moi, je préfère jouer avec mes névroses que les refouler, en fait.
Donc, dans le spectacle, ou dans votre présentation, il y a un moment donné où vous parlez des polymères. Là aussi, on est sur ce jeu de mots, hein, et qui est quand même très signifiant par rapport à ce bassin.
Effectivement, parce qu'on a eu, on est passé d'un modèle polyparental où chaque personne vivait dans une cité et chaque cité était dans une compagnie. Donc les mineurs étaient vraiment pris en charge au niveau emploi, logement, chauffage, bien sûr, mais aussi loisirs, vacances, église, école, tout était pris en charge. Donc on avait des moi, je pense que c'est un processus à terme d'infantilisation totale qui fait que quand les mines sont parties, les gens étaient désarçonnés parce qu'ils devaient prendre leur vie en main et c'était pas gagné pour tout le monde. Je vois ça comme ça, c'est peut-être un peu caricatural. Mais entre-temps, on a eu un passage polyparental à monoparental, puisque entre-temps, il y a eu quand même la phase de nationalisation. C'est-à-dire que les mineurs travaillaient directement pour les Charbonnages de France. Mais ça reste des modèles de paternalistes, très paternalistes, voire maternalistes, je pense, qui ont eu en tendance à infantiliser les populations et les réduire à l'état de mineurs. Donc pas de passage de mineur majeur, c'est prendre ses responsabilités, être autonome, ne pas subir... un destin tracé par d'autres gens. Enfin bref, c'est toute une réflexion philosophique, mais qui concerne, je pense, le monde entier, pas seulement le bassin minier.
Et donc, on comprend bien la nécessité, peut-être, hein, pour les gens de ce territoire qui ont eu cette culture et cet aspect cocooning, d'une certaine manière, de rester un peu entre eux et de faire confiance à des gens qu'ils méritaient plus ou moins. Comment on peut redémarrer sur des modes plus dynamiques où les gens s'intègrent, mais aussi proposent au territoire des idées, des solutions. Est-ce qu'il n'y a justement pas une psychanalyse à faire pour régler définitivement ce problème ?
C'est notre mission, c'est de justement de finir cette psychanalyse. Je crois que c'est pas terminé. On découvre, on a chaque jour des nouveaux éléments, mais on a un plan global. Et puis il y a aussi le fait que je pense qu'il y a énormément de traitements qui ont déjà été testés sur le bassin minier. Mais je pense que ces traitements sont en train de porter leurs fruits. On a quand même tendance à voir le bassin minier se redresser avec des gens qui sont maintenant fiers d'y habiter. Et même à terme, on peut imaginer qu'il y a des gens qui vont vouloir y habiter. Là, on a pas encore basculé dans ce pouvoir d'attraction que pouvait avoir le bassin minier. Sachant, je sais que vous êtes lacanien, mais sachant qu'on a une logique de trou noir quand même. À la base, un trou noir, ça absorbe la lumière, ça absorbe les gens. Et là, le trou noir, peut-être, ce que je vais dire, et c'est, ce qui est assez troublant d'ailleurs, c'est que c'est un livre blanc qui a essayé de sortir le trou noir de son trou. Tout ça grâce à des troubadours et des trouvères. Troubadour, trouvère, on est toujours dans la logique du trou, mais qui se décline de manière artistique et culturelle.
Voilà, bien, l'idée étant bien sûr de sortir du trou. Merci Laurent Petit.
Eh bien merci Radio Campus et à bientôt j'espère pour de nouveaux comptes rendus.
Voilà, vous en savez maintenant plus sur la psychanalyse urbaine et sur ce territoire de l'Artois qui se projette encore dans l'avenir. Affaire à suivre donc. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus Lille.